VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 3 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Les manifestations contre les brutalités policières se poursuivent dans plusieurs villes américaines. Le ministre de la Défense, Mark Esper, s'est déclaré opposé au déploiement de l'armée. Sur la mort de George Floyd, les États-Unis sont critiqués par des alliés comme le Canada et la Grande-Bretagne. En République démocratique du Congo, au moins 16 civils ont été tués dans un nouveau massacre en Ituri. 12 morts dans des combats hier soir entre l'armée angolaise et les séparatistes de l'enclave de Cabinda. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La mort de l'Africain-Américain George Floyd lors d'une interpellation policière le 25 mai fait toujours des vagues. Les manifestations se sont poursuivies malgré la menace du président Donald Trump de déployer l'armée. Le point avec Mouamadou Oumfa.
La vague de contestation ne s'apaise toujours pas. 9 jours après la mort à Minneapolis de George Floyd, asphyxié par le genou d'un policier blanc sur son cou. Les manifestations se sont poursuivies tard dans la nuit avec des scènes de pillage, des affrontements avec la police. À New York et Los Angeles, des manifestants ont fait fi des couvre-feux avec toutefois moins de pillage et de violence que les nuits précédentes. À Houston, au Texas, où George Floyd a grandi et sera enterré la semaine prochaine, au moins 60 000 personnes ont marché pacifiquement pour lui rendre hommage. Dans la capitale fédérale Washington, plusieurs milliers de personnes, dont la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont manifesté pacifiquement jusque bien après le couvre-feu de 19 heures. Enfin, à Minneapolis, dans le Minnesota, où George Floyd a été tué, la situation était un peu plus calme que les jours précédents. Le gouverneur de l'État, Tim Walz, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la police de Minneapolis avec de possibles pratiques discriminatoires systémiques durant les 10 dernières années.
Les États-Unis ont reçu plusieurs critiques dans le monde sur l'affaire George Floyd, dont notamment de leurs alliés, la Grande-Bretagne et le Canada. Eric Manirakiza.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé mercredi scandaleux, inexcusable, le décès de George Floyd. Nous l'avons tous vu sur nos écrans et je comprends parfaitement que les gens aient exercé leur droit de manifester, a-t-il dit devant les députés de la Chambre des communes. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que les Canadiens suivaient avec horreur et consternation la situation aux États-Unis. C'est le moment de rassembler des gens, a poursuivi M. Trudeau, sans jamais mentionner le nom du président américain. Le pape François a jugé intolérable toute forme de racisme, condamnant aussi les réactions de violence et appelant à prier pour le repos de l'âme de George Floyd et pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du péché de racisme. Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC, écrit, je cite, « Le racisme est inacceptable, nous devons faire mieux », citant Martin Luther King. Le système a échoué à protéger un de nos citoyens, comme il a trop souvent fait à l'égard de tant d'Africains américains, ajoute l'ambassadeur dans sa déclaration. L'Iran, lui, a jugé par la voix de son guide suprême, Ali Khamenei, que la mort de George Floyd révélait la nature de l'Amérique et ce qu'elle a toujours fait avec le monde entier.
Le secrétaire américain à la Défense s'est dit ce mercredi opposé à l'idée de déployer l'armée dans les grandes villes des États-Unis pour juguler le vaste mouvement de protestation contre le racisme et les brutalités policières. Ces déclarations de Mark Esper, le chef du Pentagone, sont intervenues alors que le pays se préparait à une nouvelle journée de contestation. Le président américain Donald Trump a nié avoir été escorté dans un bunker sécurisé en raison des manifestations, assurant s'être rendu sur place pour une inspection. Selon le New York Times, M. Trump a été mis à l'abri vendredi soir par les services secrets lors d'une manifestation devant la Maison Blanche. Par ailleurs, selon Press Freedom Tracker, plus de 140 journalistes ont été pris à partie par la police ou des manifestants depuis vendredi aux États-Unis. Sur une période de 5 jours, c'est plus que le total sur les 2 années 2018 et 2019. En République démocratique du Congo, au moins 16 civils, dont 7 femmes et 5 enfants, ont été tués dans un nouveau massacre la nuit dernière en Ituri. Les victimes ont été attaquées par armes blanches et à feu, selon l'administrateur du territoire de Djougou, Adel Alingi. RDC toujours, le procès sur les détournements de fonds prévus pour la construction de maisons préfabriquées dans lequel comparaît Vital Kamerhe a repris ce mercredi. Un nouveau juge a été nommé après le décès du président du tribunal de grande instance de la Gombe, Raphaël Yanni Ovungudu. L'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi ainsi que deux prévenus répondent à cette troisième audience qui est aussi consacrée à l'audition des témoins. La Cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à la remise de Félicien Kabouga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda, au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, chargé d'achever les travaux du TPIR qui a fermé fin 2015 après 20 ans d'activité. La défense du fondateur de la radio-télévision d'Émile Collines, qui voulait qu'il soit jugé en France, peut se pourvoir en cassation. Kabouga a été arrêté le 16 mai près de Paris après 25 ans de cavale. Au Sénégal, les populations ont manifesté pour réclamer la fin du couvre-feu après 2 mois d'état d'urgence. De la banlieue de Dakar à la cité religieuse de Touba, la journée de mardi a été mouvementée, rapporte notre correspondant Sédina Abagay.
Principalement animée par des jeunes, ces manifestations ont commencé par une grogne des transporteurs interurbains qui se plaignent de l'arrêt total de leurs activités, là où d'autres secteurs bénéficient d'assouplissement. À Touba, déjà la fin d'après-midi a été très tendue entre eux et les forces de l'ordre qui ont procédé à plusieurs arrestations. Des interpellations qui n'ont pas calmé les jeunes, qui ont de nouveau investi la rue en plus grand nombre et avec une plus grande violence. Dans la nuit du mardi à mercredi, ils ont de nouveau manifesté en s'attaquant au centre de traitement des épidémies de Touba, où ils ont brûlé une ambulance avant de barrer les grandes artères de la ville. Une situation qui a obligé le calife général des Mourides à faire une intervention nocturne inédite pour ordonner l'arrêt immédiat des hostilités, non sans rappeler que pareille chose ne s'était jamais produite dans la ville sainte. Les autorités étatiques, elles, ne se sont toujours pas prononcées sur la question, malgré des scènes similaires dans la banlieue de Dakar et dans plusieurs autres villes du Sénégal, où les populations estiment que la détresse économique et sociale causée par les restrictions est plus létale que la COVID-19. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Des combats ont opposé hier soir l'armée angolaise à la guérilla du Front de libération de l'enclave de Cabinda. Les séparatistes avancent un bilan de 12 morts. Parmi les victimes figurent 4 soldats, 2 séparatistes et 6 civils selon la même source. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron se sont engagés à relancer la relation entre Paris et Alger après une semaine de crise diplomatique qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France. Les deux présidents se sont entretenus mardi au téléphone. En ce qui concerne le conflit en Libye, ils ont convenu d'une coordination pour y mettre un terme en œuvrant au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région, indique la présidence algérienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La revue The Lancet a annoncé prendre ses distances avec une étude sur l'hydroxychloroquine qu'elle avait publiée et qui déconseillait formellement l'utilisation de cette molécule, conduisant plusieurs pays à arrêter son utilisation pour traiter la maladie Covid-19. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Selon The Lancet, 2 sérieuses questions scientifiques ont été portées et la revue a publié cet avertissement pour alerter ses lecteurs. L'étude, publiée le 22 mai, avait conclu que l'hydroxychloroquine n'est pas bénéfique aux malades du Covid-19 et peut même être néfaste. Elle a eu un retentissement mondial et des répercussions spectaculaires en poussant notamment l'OMS à suspendre ses essais cliniques et la France à interdire son utilisation pour les malades positifs au coronavirus. Dans la foulée de sa parution, de nombreux chercheurs ont exprimé leurs doutes sur cette étude. L'étude a été menée sur 96 000 patients hospitalisés entre décembre et avril dans 671 hôpitaux. Mais des dizaines de scientifiques du monde entier ont souligné dans une lettre ouverte avoir des inquiétudes liées à la méthodologie et à l'intégrité des données. Pour le professeur Gilbert Deray, un spécialiste français, cela montre que le temps scientifique doit être déconnecté de celui médiatique. L'urgence de la pandémie ne justifie pas les études médiocres, a-t-il estimé sur Twitter.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
Banque Atlantique Mali conforte son positionnement dans le secteur bancaire national pour l'exercice 2019 avec un bilan de 305 milliards de francs CFA et un PNB en hausse de 17% par rapport à 2018. Les indicateurs commerciaux sont également en nette progression. Le nombre de clients a progressé de plus de 15%, tandis que le nombre de comptes a évolué de 17% par rapport à 2018. Banque Atlantique a multiplié les initiatives de financement et a distribué plus de 150 milliards de francs CFA de crédits d'investissement et d'exploitation. La crise du coronavirus a cloué au sol depuis le mois de mars les avions de la compagnie Royal Air Maroc, qui perd 5 millions d'euros par jour, et sa flotte de 61 avions bénéficie d'un soutien financier immédiat de l'État pour faire face à des charges excessives, dont le douloureux remboursement des voyageurs qui n'ont pas pu effectuer leur voyage. L'asphyxie de la RAM est la même pour les autres compagnies maghrébines, ouest-africaines et autres. Tous se débattent à l'instar de la sud-africaine. La crise du coronavirus a montré la vulnérabilité de plusieurs compagnies aériennes en Afrique en raison de l'interruption des lignes régulières de transport de passagers. Au Cameroun, la société de développement du coton, la Mastodonte agro-industrielle des régions septentrionales, informe qu'elle a produit plus de 328 000 tonnes au cours de la saison 2019-2020. Cette performance est une hausse de 8,36% par rapport à 2018-2019, où la Sotte Coton a produit près de 320 000 tonnes.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le président du club africain, Abdel Salem Younsi, a finalement jeté l'éponge. En plus de lui, Taoufik Ben Samir, Tarek Asmi, Khalil Majoub et Maji Khelifi ont aussi démissionné du comité directeur du club tunisien. Ces démissions ont été précipitées par les problèmes financiers et une situation devenue chaotique face aux menaces des supporters. La FIFA a menacé l'équipe de graves sanctions. Une assemblée générale évaluative et une autre élective sont prévues le 15 juillet. Le club africain a rappelé que seuls les détenteurs d'une carte d'adhérent 2019-2020 pourront assister aux assemblées générales. En France, Victor Osimhen a été honoré pour sa première saison en Ligue 1. L'attaquant nigérien a été désigné d'orgue de la saison ou meilleur joueur lillois de la saison. Arrivé l'été dernier de Charleroi en Belgique, le champion du monde des moins de 17 ans en 2015 s'est vite intégré. À 21 ans, il a inscrit 18 buts en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Osimhen est aussi en lice pour le prix Marc Vivien Foé, du meilleur joueur africain de Ligue 1. En Grande-Bretagne, le géant américain de la vente en ligne Amazon diffusera gratuitement les 4 matchs de Premier League dont il a acquis les droits pour le reste de la saison 2019-2020. Comme le reste du pays, nous sommes ravis de voir la Premier League revenir en action, a déclaré Alex Green, directeur général de Prime Video Sport en Europe. La Premier League doit reprendre à huis clos le 17 juin. Les 92 rencontres restantes seront diffusées en direct et Amazon, par le biais de son service de streaming en ligne Prime Video, a les droits de diffusion de 4 matchs. Mais contrairement à ce qui s'est fait durant la première partie de la saison 2019-2020, les fans n'auront pas besoin d'avoir souscrit à l'offre Prime pour regarder ces matchs sur la plateforme en ligne. En Allemagne, il n'y aura finalement pas de sanctions contre les hommages à George Floyd. La Fédération de football a annoncé qu'elle ne sanctionnerait pas les hommages des joueurs à George Floyd lors du match en Bundesliga. La Fédération entend maintenir cette décision lors des prochaines journées de championnat, même en cas de nouvelle action antiraciste suite à la mort violente de George Floyd, a annoncé la Bundesliga. Le week-end dernier, plusieurs joueurs ont rendu hommage à cet homme noir décédé le 25 mai à Minneapolis, ici aux États-Unis, lors de son interpellation par la police. Dimanche, le jeune attaquant anglais de Dortmund, Jadon Sancho, tout comme le défenseur marocain Achraf Hakimi, ont affiché un t-shirt portant l'inscription « Justice pour George Floyd » après avoir marqué chacun un but. L'attaquant de Mönchengladbach, Marcus Thuram, a lui mis un genou à terre pour célébrer son but.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les funérailles de George Floyd sont prévues en fin de semaine à Minneapolis et également à Houston, sa ville d'origine. Bagassi Koura a joint dans cette ville du Texas Aristide Sidibé, d'origine malienne, qui est administrateur dans un établissement scolaire. Il parle de l'ambiance avant les funérailles.
Les manifestations à Houston, d'abord c'était des manifestations pacifiques. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est. Mais malgré cela, hier, apparemment, la police a arrêté des gens. Bon, il faut comprendre que le défunt George Floyd est de Houston et son enterrement est prévu ici. Mais généralement, la police a une très bonne relation avec la population ici parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont des officiers de police ici. Moi-même, j'ai un jeune frère malien qui est officier de police ici à Houston.
Les funérailles sont prévues à Houston. Comment est-ce que la ville se prépare?
Bon, la ville et les communautés religieuses sont en train de se mettre à pied d'œuvre. Sa famille, je sais quand même que sa famille est à Missouri City. C'est un quartier près de mon quartier. Il y a beaucoup de communautés qui sont engagées. Il y a la société civile aussi. Mais maintenant, avec le coronavirus, c'est ce qui va peut-être faire de telle sorte que les gens doivent suivre certaines mesures. Mais quand même, ce que je sais des préparatifs, c'est que la famille est en relation avec beaucoup d'associations de communautés civiles et d'églises ici.
Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, le niveau de manifestation est beaucoup plus différent des autres fois?
Je crois que pour Houston, c'est un peu différent dans le sens que c'est sa ville d'origine, sa famille est là. Mm-hmm. Et aussi, Houston est un melting pot. Houston est la quatrième ville des États-Unis. Et la communauté ici, le brassage, ceux qui disent melting pot, est une réalité ici. Donc, aussi, malgré cela, c'est vrai, Houston n'est pas à marre de certaines brutalité policière. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un officier du chef de département a été sauvagement assassiné lors d'un traffic stop par quelqu'un parce qu'il portait le signe des Indiens là. Donc, Houston aussi à ces brutalités policières, mais cette fois-ci, ce n'était pas la police à faire quelque chose à quelqu'un d'autre, mais plutôt quelqu'un qui pensait que ce policier-là était musulman.
Aristide Sidibé, administrateur scolaire, était joint à Houston, ici aux États-Unis.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur les manifestations et émeutes qui se multiplient aux États-Unis plus d'une semaine après le décès de George Floyd, un Africain-Américain, lors de son arrestation par un policier blanc. Les protestataires dénoncent les brutalités policières et le racisme. Le président Donald Trump accuse les anarchistes et les médias d'alimenter la violence. La colère a également gagné de nombreuses villes ailleurs dans le monde. Nous attendons vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Des responsables africains se sont déclarés préoccupés par l'évolution de la situation aux États-Unis suite à la mort de George Floyd. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a qualifié sa mort de meurtre. En Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir appelle au calme et à sortir de l'impasse raciale aux États-Unis. Le point avec Lionel Gaïma.
Ces derniers jours, la rage a gagné plusieurs villes américaines après la mort de George Floyd à Minneapolis, après une brutalité policière. L'indignation s'est aussi propagée à l'Afrique. À Addis Abeba, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, a qualifié de meurtre la mort de Floyd. Les ambassades américaines au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo ont publié des rares déclarations d'inquiétude sur la mort de Floyd le 25 mai. Le continent demande des comptes. Karine Kaneza Nantulia, directrice du plaidoyer pour l'Afrique de Human Rights Watch.
Je pense que la mort de George Floyd est une histoire qui devrait toucher tout membre d'une communauté minoritaire. Que ce soit minoritaire, que ce soit par rapport à la couleur de la peau, que ce soit par rapport à son ethnicité, sa religion, son orientation sexuelle. Pour une raison très simple, c'est qu'elle nous rappelle tous les expériences que nous avons pu avoir. Chaque personne qui s'est trouvée dans une situation de violation de ses droits, dans une situation de dynamique de pouvoir entre ceux qui représentent le gouvernement, les forces de sécurité et les citoyens. Toute personne qui connaît cette expérience d'avoir peur, de craindre celui ou celle qui devrait en fait te rassurer et te protéger, va se retrouver dans l'histoire de George Floyd.
Pendant des décennies, les dirigeants africains ont été irrités par ce qu'ils considèrent comme un traitement paternaliste des nations occidentales. Cet incident tragique explique Andrews Atta Asamoah, un chercheur basé à Addis Abeba pour l'Institut d'études de sécurité, pourrait obliger l'Union africaine à prendre les devants.
C'est une question plus large qui s'inscrit dans une crise systématique sur laquelle l'Union africaine peut interpeller les États-Unis en termes de ce qui doit être fait entre l'Union africaine et aussi la diaspora africaine. Je pense que c'est une opportunité pour commencer maintenant à souligner exactement ce que la communauté africaine-américaine traverse au quotidien.
Pour Karine Kaneza Nantulia, qui est basée à Washington, cette déclaration forte des dirigeants africains pourrait également inciter les citoyens à travers le continent à exiger de leurs dirigeants un changement de ton.
Ce communiqué quand même nous rappelle aux Africains qui vivent sur le continent africain dans toute leur diversité, qu'ils ont la légitimité et le droit de demander de la part de l'Union africaine une solidarité par rapport à leur droit de vivre en toute liberté, le droit à la dignité et le droit à l'aspiration à d'opportunités égales.
Cette semaine, alors que la colère se propage aux États-Unis, en Afrique du Sud, un ancien pays de l'apartheid et de la division raciale, le Congrès national africain réaffirme que la mort des Africains américains noirs comme George Floyd, Ahmaud Arbery ou Breonna Taylor montre que la société américaine doit reconsidérer la manière dont sont traités les Noirs aux États-Unis.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Mali, les syndicats d'enseignants ont boycotté la reprise de l'école dans l'enseignement public alors que les cours ont bien débuté dans le privé. Le gouvernement a mis les moyens afin que les mesures barrières soient respectées dans les établissements scolaires, selon notre correspondant Kassim Traoré.
Après 3 mois de fermeture à cause de la maladie à coronavirus, les élèves retrouvent les chemins de l'école. Professeur Mamadou Famanta, ministre de l'Éducation nationale.
Conformément à notre communiqué du 9 mai dernier, les classes d'examen du fondamental, la 9e année, du secondaire général et technique, la 12e année, du secondaire technique et professionnel, les classes du certificat d'aptitude professionnelle, des brevets techniciens niveau 1 et niveau 2, ainsi que celles des instituts de formation des maîtres IFM vont ouvrir leurs portes. Pour cette réouverture de ces classes d'examen, toutes les mesures de prévention de la pandémie COVID-19 vont être observées.
C'est ainsi qu'à Kalabankoro, dans la banlieue bamakoise, la mairie est venue en appui à cette reprise de l'école par la remise de 700 dispositifs de lavage des mains. Amala Sidibé, maire de Kalabankoro.
L'école est sous la tutelle de la mairie. Donc à cet effet, c'est le devoir de la mairie d'intervenir selon le besoin dans le cadre du bon fonctionnement de l'école. Et c'est là pour lutter contre cette pandémie qui est la COVID-19.
Les 219 élèves candidats au DEF du Centre d'animation pédagogique de Torokorobougou ont été répartis en groupes de 25 élèves par classe. Abdoulaye Kone, directeur du Centre d'animation pédagogique de Torokorobougou.
Chaque élève sera sur son tablepin. Nous avons demandé au directeur également de faire en sorte que la récréation soit un système rotatif. Nous avons demandé au directeur également que dans un groupe scolaire, nous considérons que tous les enfants sont à votre disposition. Il faut faire l'exemple de temps de telle sorte que tous les enseignants soient utilisés en temps utile.
Dans les établissements privés, les cours ont repris sans problème.
Nous avons pris toutes les dispositions qui ont été souhaitées par les autorités. La distanciation, les kits de lavage de mains, les masques. Ce matin, nous sommes passés dans toutes les classes et puis on a reparti.
Nous avons procédé à la prise de température, au lavage des mains. Donc dans l'ensemble, en même temps, les masques nous ont été offerts par les autorités aussi. On les a distribués aux élèves. Dans l'ensemble, pour le moment, ça va et nous souhaitons que ça continue ainsi.
Les syndicats d'enseignants ont décidé de boycotter cette réouverture des classes en sabotant les activités pédagogiques. Abdoulaye Traoré, enseignant.
Toutes les conditions ne sont pas améliorées parce qu'il y a des classes qui ne sont pas désinfectées. Les anciens n'ont pas eu des cache-nez. Et ensuite, la loi aussi n'est pas appliquée. L'article 39. Je demande aux autorités de faire tout pour appliquer la loi de sauver de ces pays-là. Les anciens ne sont pas prêts.
Si les tout-petits sont restés à la maison à cause de la maladie à coronavirus, dans le centre et nord du pays, plusieurs écoles sont fermées à cause de l'insécurité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Africa.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Gabon, les coûts du transport terrestre connaissent une hausse importante, en cause la rareté de ses moyens de déplacement sur les principales lignes de l'intérieur du pays et vers la capitale, Libreville. Cette situation profite aux particuliers qui bravent la mesure gouvernementale de restriction des déplacements pour offrir leurs services. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Le jeune Mikiel veut rallier les Bamba, une ville du sud du Gabon dont il est originaire. Depuis plusieurs semaines, il tente une aventure sans issue. Ce matin encore, pas de véhicule en gare pour sa destination. D'ordinaire, un aller simple dans la région est estimé à 15 000 francs CFA sur un parcours de plus de 500 km. Aujourd'hui, il lui faut bien plus que ce tarif pour effectuer son déplacement.
Il faut avoir des laissés-passer, les prix ont augmenté. Là, on a payé, je crois, 7 000, c'est monté à 25 000 sans laissés-passer avec 20 000.
Ou avec des bagages, ça veut dire que vous avez trouvé un véhicule?
Bon, je t'en fais de véhicule, j'attends.
Vous avez une promesse?
Oui, j'ai une promesse, mais il vaut mieux attendre. Comme on dit, on attend le plus.
Une attente parfois trop longue pour des centaines d'usagers, otages du confinement à Libreville. Les agences de voyage étant paralysées, les activités des aides-chauffeurs sont aussi impactées par la crise. Jeffrey Mikala est chargeur à la gare routière.
Je suis là depuis 7 heures, j'ai eu 2 clients.
2 clients pour quelle destination?
Cambo seulement. Cambo, lui, le client lui paye 5 000. Le chauffeur mange 4 500. Le chargeur mange 500. C'est comme ça. Nous, ça devient compliqué parce qu'on a des loyers à payer. On ne peut pas rester à la maison les mêmes coincés avec les enfants. On est obligé de se battre. 500, 250 qu'on peut avoir par personne. 250. Ça fait l'affaire.
Tous les sites de stationnement des transporteurs terrestres peinent à mobiliser les clients. Cela s'explique. Le gouvernement n'a pas encore levé l'interdiction de voyager, mais la mesure est bravée par des particuliers avec des coûts de transport qui passent désormais du simple au double sur toutes les lignes de l'intérieur du pays. Albin Goma embarque pour l'Ambarané à près de 300 km de Libreville.
C'est cher vu l'état des routes avant, parce que ça il y a longtemps. Ensuite on est dans la pandémie qui nous embête, le corona. Mais la rareté fait que les prix augmentent, parce que la pandémie fait que les voyages sont rares et les rares personnes qui s'aventurent sont, on va dire, sont dans le qui-vive. On ne sait pas si on va arriver ou pas.
Dans l'attente du probable déconfinement du Grand Libreville et donc de l'autorisation de toutes les activités, prendre la route nécessite de grosses dépenses, surtout que le secteur souffre d'une absence de régulation. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.